Dans quelques secondes, vous allez écouter votre épisode du jour. Alors si vous aimez Dans les yeux d'Olivier en version podcast, dites-le nous en mettant des étoiles ou en écrivant un commentaire sur les plateformes d'écoute. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci. On imagine souvent que notre vie est toute tracée, mais un événement peut venir bouleverser le cours des choses. Un événement qui transforme une existence paisible en un véritable chaos. J'ai voulu partir à la rencontre de rescapés, des hommes et des femmes qui ont frôlé la mort, qui ont été coupés des autres et qui ont réussi à revenir. Comment se sont-ils battus pour rester en vie ? Où sont-ils allés chercher cette force en eux ? Et surtout, comment ont-ils retrouvé leur place dans le monde des vivants ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Claude. La vie de cet homme très sportif, hyperactif, a basculé en l'espace d'un week-end. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, soyez les bienvenus. Tétraplégique du jour au lendemain, Claude est condamné à ne jamais remarcher. Et c'est pourtant bien debout qu'il vient parler aujourd'hui de la maladie et du handicap à une classe d'élèves kinésithérapeutes.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Bienvenue dans vos locaux. Aujourd'hui, je fais semblant d'être handicapé, juste avec ma petite canne pour faire mon Dr House. Mais quand même, je sors d'un petit bout d'enfer.
Un samedi de septembre 2005, épuisé, Claude passe son après-midi au lit, ce qui ne ressemble pas à ce père de famille et chef d'entreprise habituellement plein de vitalité. Dans un premier temps, sa femme Elisa ne s'inquiète pas. Son mari a peut-être tout simplement besoin de repos, mais Claude, lui, sent que son corps le lâche étrangement.
Je sentais quand même venir comme une... Je me sentais piégé, j'étais malade. Cette sensation d'être malade, mais sans pouvoir montrer du doigt, dire quoi, quelle maladie. Et dans la nuit, je me suis réveillé sans doute un mélange d'angoisse et d'envie d'aller faire pipi. Mm-hmm. Sauf que quand je me lève, une fois que je suis debout, j'ai l'impression que mes pieds, je ne les contrôle plus. Et je sens, deuxième chose aussi, je sens que ça gagne. Que progressivement, je me sens pris dans un filet. C'est-à-dire que les fourmis remontent. Maintenant, ça me picote dans les bras. Et je suis comme en train d'observer ce qui m'arrive. Ça monte, mais ça va s'arrêter où ? Comme si ça allait jusque m'étouffer. Je rentrais dans des sables mouvants. C'est une impression qui est terrible. Et au matin, il faut que je me lève pour aller prendre ma douche. Et dans la douche, je m'écroule. Je ne peux plus contrôler mes jambes. Je suis écroulé dans ma douche. Je suis obligé d'appeler ma femme pour qu'elle m'aide à me relever. Qu'est-ce qui m'arrive ?
Vous réalisez qu'il est en train de se passer quelque chose de grave ?
Dans la nuit, j'ai compris quand même qu'il y avait quelque chose de complètement anormal qui se passait. Et le lendemain matin, c'était terrible. Il ne pouvait même plus déjeuner, il ne pouvait plus porter le petit déjeuner à la bouche, en fait. Il avait même perdu une notion pour mettre la cuillère à la bouche. Mmh. Donc là, j'ai commencé à paniquer, à appeler tous mes copains médecins.
Le soir même, une amie rhumatologue et un ami kinésithérapeute viennent au chevet de Claude pour tenter de comprendre ce qui lui arrive. Mais dans un premier temps, le mal qui le ronge est une énigme.
Je coule devant tout le monde. Et tout le monde est à mon chevet. J'ai l'impression d'une scène de Molière, dans le malade imaginaire. J'ai ça. Et tout le monde tourne en rond avec leur chapeau pointu en disant ouais, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que ça peut être, quand même ? Et à un moment, j'entends. C'est peut-être un guilin barré. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que ça va être du très lourd.
Une consultation chez un neurologue confirme le diagnostic évoqué par les amis du couple. Claude est bien atteint du syndrome de Guillain-Barré. Avec Elisa, ils n'ont pas oublié la brutalité de cette annonce.
Ils grommelaient entre eux, Daxone, etc. Et ma femme s'est approchée pour dire, mais vous savez, Mon mari, c'est un bon sportif, il a l'agnac, il va faire beaucoup de kiné. Qu'est-ce que c'est l'axone ? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis au bout d'un moment, on a entendu ce ton compassionnel, très gentil, qui dit « Mais ma petite dame, vous n'avez pas l'air de bien comprendre. L'axone est foutu, quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Malheureusement, votre mari ne remarchera plus. Il pourrait y avoir 15 kinés au-dessus de lui, c'est fini. Mmh. » Voilà, ça c'est le diagnostic, coup de poing dans la gueule.
Oui. J'étais presque révoltée de la dureté de l'annonce. On revenait de vacances, il n'y avait aucune raison, on était reposés, on avait été à la mer, tout allait bien. Et c'est vrai que ça vous tombe dessus et votre vie se transforme. J'étais tellement mal que quand le char, quand il est reparti dans l'ascenseur avec la personne qu'il transportait, allongée, je n'ai pas pu prendre l'ascenseur avec lui. Je ne pouvais plus le regarder dans les yeux. J'ai mis un certain temps avant de pouvoir revenir le voir. J'étais sur le parking de l'hôpital, j'étais complètement bloquée. Je ne savais plus comment faire.
Pour Claude, c'est un choc. Il vient d'apprendre qu'il est atteint de la forme axonale du syndrome de Guillain-Barré. Cette maladie auto-immune, très rare, qui détruit les neurones, est mortelle dans certains cas et conduit le plus souvent à une paralysie totale et définitive. Elle survient en général après une banale infection virale, comme l'otite dont Claude a souffert 15 jours auparavant. Il est alors admis dans un état critique en réanimation.
Habituellement, dans ces services de réa, on pense qu'à un moment donné, ça va aller de mieux en mieux. Plus ça va, moins ça va. Il n'y a plus rien qui tient. Ma tête, tout.
Votre tête, oui.
Ma tête, c'est-à-dire que d'un seul coup, tous ces muscles-là sont aussi atteints.
Ce que je n'arrive pas à faire, c'est ça. Peut-être que bientôt, je...
C'est quoi ?
C'est de tenir mon poignet.
Ah oui.
Il se bloque. J'arrive pas à contrôler, putain.
On me mettait une main... sur ma main, c'était douloureux. Il fallait deux aides-soignantes pour me soigner. C'est-à-dire qu'on tenait ma main là, et avec une compresse, on nettoyait là. J'étais comme un écorché vif, comme un grand brûlé, quoi.
Donc, une mouche, par exemple, un insecte, oui, pouvait se révéler être...
Il fait chaud, il fait beau, on ouvre, et les mouches viennent sur mon ventre, et je sens leurs six pattes comme des poignards s'enfoncer dans mon gras du bide, que je n'avais plus. Et j'ai envie de dire, au secours. Mais l'homme que je suis, tu vas pas dire au secours pour des mouches. Et pourtant, si, vite, une infirmière, qu'elle me débarrasse de ces mouches. C'est tragicomique.
Face à la gravité de son état, le moral de Claude est au plus bas. Et les mots maladroits d'un jeune médecin ne vont pas l'aider.
Tu transpires ?
Un jour, il y a quelqu'un qui fait des heures sup. Il y a un interne qui revient par la porte de derrière. Et il me décrit toutes les particularités de certains Guillain-Barré. À savoir, oui, on peut en mourir, effectivement. Il y a 10 à 20% des cas de la forme axonale qui en meurt. Waouh, mais c'est terrifiant. Je peux pas lui foutre mon poing dans la gueule, mais j'aurais bien aimé. Et il me déroule tout ça, le processus. J'ai vu que vous peignez, vous faisiez de la sculpture, que vos mains sont importantes. Mais rien n'est jamais désespéré. Vous pouvez toujours apprendre à peindre à la bouche. Ouais, ce monsieur me dit ça. Mm-hmm. C'est incroyable, quoi.
Ouais.
Mais ça m'a donné sans doute le poids de l'existence, quoi. Ou la volatilité du bonheur. Mm-hmm. Tout va bien, parce que c'est un peu ça, moi. Tout va bien, aucun problème. Moi, malade, jamais. Eh non, pépère. Mm-hmm. Un jour, claque.
Dans cette période de dégringolade, comment est-ce que vous vous situez quelle perception vous avez du monde extérieur ?
C'est terrible, c'est l'extrême solitude. Ouais. Là, ce que j'ai découvert, c'est que je suis né seul, je vais mourir seul, et de temps en temps, le plus souvent possible, je vais être accompagné d'aidants, d'aimants. Cependant, je suis seul sur Terre. Du jour au lendemain, bah oui, je ne travaille plus. Il y a aussi... tout qui doit continuer. Il y a mes enfants, il y a tout ce... je suis l'iceberg, mais derrière, la vie continue sans moi.
Il fallait que je m'accroche, parce que, en fait, moi, je faisais partie de sa vie, donc je devais tout comprendre. Mm-hmm. Et puis, plus rien ne l'intéressait de ce que je pouvais vivre à l'extérieur. Et je l'ai compris bien après, parce qu'il avait besoin de garder son énergie entièrement pour lui. Et la personne qui m'a sortie d'affaire, c'est le chef de service des urgences de la réanimation et de la post-réanimation qui est venu le voir et qui l'a vu extrêmement déprimé et qui lui a dit « Mais monsieur, vous savez, la médecine, c'est que des statistiques. Donc vous allez nous montrer ce que vous allez faire de cette maladie. » Et il l'a regardé, il l'a écouté, il a absorbé ses paroles en lui disant « Il a raison, je vais leur montrer ce que je vais faire de cette maladie. »
J'ai décidé de me reconstruire. Ça peut paraître complètement fou, scolaire. Non, dans ma tête, je me suis programmé pour me reconstruire. Puisque je me suis détruit, je vais me reconstruire. J'ai décidé de guérir. Ça paraît fou. Mais quelque part, je l'avais. À l'intérieur, il n'y a pas de raison. Je vais, c'est la méthode Coué. Hein, c'est la méthode Coué. C'est comme au combat. Je vais gagner. Je vais faire une course. C'est moi qui vais gagner. Un jour, je vais me remettre debout. Et ça, je me le suis construit.
Armé d'une nouvelle détermination, Claude n'a maintenant qu'une obsession, surmonter la maladie et retrouver l'usage de ses membres. Après 3 mois passés en réanimation, il n'est plus en danger de mort. L'hôpital ne peut plus rien pour lui. Il part alors en centre de rééducation.
En réanimation, je suis un petit peu chouchouté. Là, je suis seul. Et je suis environné de gens, tous au minimum sont en fauteuil roulant, sinon en lit, amputés. C'est un malheur de vie pour moi avec mes yeux de valide, quoi. Waouh ! Et d'un seul coup, ça y est, je fais partie de la famille des handicapés. Moi, le sportif, je suis handicapé. C'est d'une violence. Tout s'écroule. Avant, j'étais malade. J'allais guérir. Là, maintenant, je suis handicapé. C'est mon statut.
C'est un cataclysme.
Complètement. Je culpabilise parce que non seulement moi, je suis dans le cataclysme, mais j'entraîne toute ma famille dans ce tourbillon. Donc, je me sens curieusement à la fois coupable. Quand je vois la porte s'ouvrir avec des sourires de façade, avec les yeux rougis, ouais, c'est d'une force à la fois belle, pathétique, mais je me suis nourri de ça, et c'est ça qui a sans doute fait grandir ma graine, quoi. Me dire je peux pas laisser ça à l'abandon, il faut que je me batte. Alors me battre comment? C'est un mot qui veut dire quoi? Moi j'ai su qu'est-ce que je mets derrière ce mot, se battre. Ça veut dire visualiser, ça veut dire être positif. Allez, arrête de faire la gueule, arrête de... mais mon corps m'entraînait, quoi.
Claude veut guérir, mais il ne sait pas encore comment s'y prendre. Il choisit de s'appuyer sur des méthodes de psychologie positive, comme l'autosuggestion ou encore la visualisation de ses membres.
Je visualisais mes mains, qui écrivaient, qui caressaient, qui donnaient des petits coups de poing dans la gueule de temps en temps, ce qu'on fait tous les jours, quoi. Hein. Et sans arrêt, je les regardais, je les visualisais. Mais ça, c'est un entraînement, hein, je vais dire sportif. Oui, c'est un entraînement. J'avais demandé, est-ce qu'il n'y a pas de télé? Pas de télé, je veux concentrer mon énergie sur moi. Non, parce qu'en fait, ça me distrayait.
Il faisait de la visualisation. Parfois, j'arrivais, il me disait, j'ai couru toute la nuit. Je ne lui disais rien, d'ailleurs. Je devais être pénible parce que je me réjouissais de rien. J'essayais d'être linéaire dans mes humeurs pour ne pas lui montrer mes inquiétudes, mes angoisses, etc. Je ne lui racontais presque rien de ce que je vivais. Mais j'étais extrêmement pessimiste quand même parce que je me disais, mais tout le monde me dit qu'il ne remarchera pas. Donc, j'avais du mal à y croire au fond de moi.
Au bout du compte, est-ce que dans cette histoire, quand on l'écoute, on a l'impression que le seul qui y croyait, c'était lui.
Mais je crois qu'il jouait, il croit. Et de toute façon, il m'avait quand même demandé de l'aider à mourir si jamais il restait tétraplégique. Donc, il n'avait rien à perdre. Et je crois que je lui ai dit oui pour lui faire plaisir. Mais je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire.
Appuie mon pied.
En plus de ses jambes, Claude choisit de se concentrer sur ses mains jusqu'au jour où le miracle se produit.
Je vais essayer de bouger mon poignet.
Attends, j'appuie.
C'est trop vers toi. Voilà, et mes doigts.
À force d'y penser, chaque jour, chaque heure, chaque minute, je dirais même chaque seconde, j'étais imbibé de cette visualisation positive. Je les voyais et la plus belle érection, on va y arriver, de ma vie, fut celle de mon petit doigt quand il s'est mis à lever. C'était extraordinaire, c'était d'une force. D'un seul coup, waouh ! Je remets le contact sur mon corps, mais c'était le plus beau jour de ma vie. Ça paraît dérisoire, mais c'est tellement grand pour moi. Ça m'a redonné la force de toujours continuer, quoi.
Vous avez vécu comment ce levage d'index, ces premières...
J'y croyais pas.
Vous n'y croyez pas?
Non. Mm-hmm. Je me disais, mais pff, c'est un réflexe. Enfin, c'est... On m'avait tellement dit que c'était fini que non, j'y croyais pas. Et sans compter qu'il me l'a raconté, mais moi, le soir, quand je suis arrivée, il ne pouvait plus bouger à nouveau.
D'accord.
Bien sûr, donc je ne le prenais pas au sérieux. Et quand il dit, je rentrais, et à un moment donné, je me suis dit, mais il ne va pas bien, Claude, là, il ne va pas bien. Il, à chaque fois que quelqu'un rentrait, un personnel soignant, il lui disait, vous savez, en mars, je marche. Puis il n'arrêtait pas de répéter ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe?
En mars, je marche, et je suis sûr que je vais arriver à marcher encore plus tôt. J'en suis certain. J'ai ça en moi, ça est en train de pousser, j'ai les doigts qui poussent dans ma tête.
Et j'avais des kinés qui me disaient, il faut lui dire maintenant, ça va.
Il faut
lui dire que c'est fini, qu'il ne marchera plus, que ses mains, c'est terminé.
Quand on y pense, c'est fou quand même.
Ouais. Il faut qu'il accepte, il va falloir qu'on lui mette des prothèses, qu'on l'habitue, il faut qu'il s'habitue à manger avec des prothèses. Et je lui disais, non, je vous en supplie. C'est trop tôt. Non, non, laissez-lui encore une chance, c'est trop tôt.
Je vais redevenir un homme debout. C'est une expression
D'accord.
que j'utilise beaucoup. C'est nous-mêmes qui nous les posons, les barrières. Si je dis que je ne suis pas capable de faire ça, il y a de grandes chances que je ne sois pas capable. Si je dis que c'est possible, alors là, on peut se mettre en condition de le faire. Ça a été ma méthode.
Alors, aujourd'hui, on est le samedi 15.
Première tentative. Arrivé.
Youhou. Première fois donc depuis 4 mois que tu arrives à faire ça.
Que je lève la tête comme un homme.
Grâce à sa combativité et à son mental d'ancien sportif, Claude a continué ses progrès.
Oh, putain, ça pèse une tonne. J'arrive. Si.
Il n'a alors pas encore récupéré toutes ses capacités motrices, mais il peut de nouveau se servir de ses mains.
J'y suis arrivé.
Youhou !
J'y suis arrivé. Incroyable, premier verre.
Et se déplacer à l'aide d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant.
Oui, ça va ?
Bravo pour les progrès. C'est bien ça.
Je voudrais bien les savoir aussi.
Ah oui. Tu vas trop vite, ça vient seulement de partir.
Ah ouais, pas mal.
Mais regarde, tu marches bien là. Hein.
Son retour définitif dans sa vie d'avant approche. Mais après avoir passé 14 longs mois coupés de tous, Claude n'est peut-être plus tout à fait le même homme.
Quand on ne voit plus ses amis, quand on ne voit plus tout son réseau, au bout d'un an et demi, c'est très dur. Il s'est creusé un gros fossé social. Mm-hmm. Je n'appartiens plus au monde des valides. Je suis en métamorphose. Ils m'ont vu sortir en tennis et on me voit arriver en déambulateur. Quel choc!
Ouais.
C'est terrible. Entre le papa qui revient comme ça, le mari qui revient comme ça, mes amis. Hein, avant, je revenais, j'ai été faire du saut à l'élastique, et là, on va parler de quoi? Et moi, je reviens dans cette maison que j'ai faite de mes mains, où j'ai privilégié la petite marche très sympathique. Mais en fauteuil roulant, tu fais comment? Etc, etc. Donc, ça me saute au visage, je vais dire à la gueule. C'est vraiment une claque à ce que j'étais avant.
Est-ce qu'on est guéri de ce syndrome ou est-ce qu'on n'est jamais tout à fait guéri?
On a des séquelles. Alors, c'est des séquelles souvent sensitives ou des séquelles de motricité. Il y a énormément de séquelles. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Quand on dit on est guéri, je crois que c'est soi-même qui pouvons se le dire. Être guéri, ça veut dire avoir fait son deuil de sa vie d'avant.
Voilà, c'est ça.
Je pense que c'est ça. Moi, aujourd'hui, je pense être guéri parce que j'ai fait mon deuil de la vie d'avant. Mmh. Eh oui, je ne peux plus courir, je ne peux plus aller faire du ski avec mes copains ou jouer au foot avec d'autres copains ou au rugby. Ah oui, le rugby, j'aimerais bien rejouer au rugby. Ah, oh, ça, c'est un rêve d'enfant, oui. Un rêve d'enfant, non, un rêve d'adulte qui va jusqu'au bout, mais je ne peux plus. Alors, je vais me lamenter jusqu'à quand? Donc, stop. Maintenant, je fais autre chose. Et il y a une autre vie qui commence.
Tu crois qu'on peut remettre deux à la
ouais.
Alors, est-ce qu'on fait ça?
Claude a le sentiment de démarrer une nouvelle existence auprès des siens, et notamment auprès de son petit-fils. Mais pour sa femme Elisa, son mari est resté le même.
Je crois pas que ce soit un autre homme, c'est lui. Il est devenu un homme malade, et puis après un homme voilà, boiteux, avec une béquille.
Convalescent.
Un homme convalescent, un homme qui souffre aujourd'hui, puisqu'il souffre quand même beaucoup tous les jours. Ouais. On peut pas passer à côté de ça, il a tout le temps mal, même s'il le montre pas et qu'il le dit jamais. Hein, personne ne peut savoir qu'il souffre tout le temps. Mais non, il aime la vie, il s'intéresse à tout, il est cultivé, il continue à faire de la peinture, de voir des amis, de faire la fête. Non, je crois que c'est le même, avec sa pugnacité et son côté conquérant.
Combattant,
mm-hmm. Ouais, pour tout.
Claude revient de loin. Longtemps, il a été seul à croire en sa guérison. Pourtant, aujourd'hui, même s'il cache ses douleurs, il remarche à l'aide d'une simple canne.
C'est Olivier, votre nom ?
Ouais, c'est Olivier.
Très bien. Aujourd'hui, il tente de transmettre et, comme il aime à le dire, redonner à ceux qui lui ont tant apporté en livrant son expérience à de futurs soignants.
Souvent, quand on est au début, qu'on n'a pas suffisamment d'expérimentation, et normalement, c'est logique, hein, vous êtes élève, eh bien, on est trop focalisé sur l'acte. Par exemple, pour illustrer avec une piqûre, c'est plus simple. Moi, j'ai eu 5 000 piqûres de Levénoc. On m'a piqué partout. Sans doute, on m'a fait mal plein de fois. Je ne me souviens pas qui m'a fait mal, qui ne m'a pas fait mal. Ce n'est pas le propos. Par contre, je me souviens de l'infirmière, de l'aide-soignante. Qui a eu une vraie présence à un moment où j'étais mal, une vraie écoute, un vrai regard. Il n'y a pas besoin parfois d'en faire des tonnes. Si vous donnez ça à vos patients, je dis vos patients, ça va être formidable pour eux. Parce que c'est grâce à des gens comme vous que des gens comme moi arrivent à s'en sortir. Ben, je vous dis un vrai merci du cœur de prendre soin des blessés de vie.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Kevin Ousty. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.